je suis donc éleveur en moutons lande de Bretagne et en moutons à branchin. Donc, race locale de l'Ouest, les meilleurs évidemment. Non, blague à part, c'est clair qu'en se lançant dans une démarche d'éco-pastoralisme, et donc en mettant une logique d'agriculture biologique avant toute chose, le propos est d'avoir des races adaptées au territoire afin d'avoir à faire une demande de traitement, que ce soit contre le piétin, comme on en parlait ce matin avec le Landes de Bretagne et la Branchin qui sont exempts de tout piétin, que ce soit au niveau du parasitisme, et même au niveau du Landes de Bretagne, ça permet d'avoir des annuages en plein air. Voilà. Ça, moi, j'y tiens pour travailler la rusticité de la race. Donc, c'est quelque chose qui est mûrement pensé, et comme l'a dit Corinne Echen, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait ce choix. J'ai eu des collègues qui font de l'éco-pastoralisme. Moi, je parle bien d'éco-pastoralisme. Je ne traiterai pas d'éco-pâturage, puisque j'interviens sur des espaces naturels. Donc, j'ai des collègues qui interviennent, eux, avec des troupeaux de suffolk, de croisés, enfin, toutes sortes de brebis. Mais ça rentre dans le cadre de leur logique d'entreprise. Et ça marche très bien pour eux, tant mieux. Ce faisant, donc, je suis devenu à mon corps défendant président de Dédé Narvro, donc c'est l'association des éleveurs moutons de Pays de Bretagne, qui regroupe la race Belle-Île, autrement appelée aussi race de deux, qui est une race assez prolifique, et la race mouton de Bretagne, qui est la race ancestrale, je dirais, de tout le pourtour de la façade atlantique, qu'on appelle au sud de Bordeaux la lande landaise, quelque chose comme ça, j'ai des gens qui en parlaient ce matin. Elles sont très cousines, hein, on voit au niveau de leur tête qu'elles sont issues grosso modo de la même génétique. Et donc, ce faisant, nous avons créé une fédération des races bretonnes pour faire la promotion de l'ensemble des races bretonnes. Donc, pour ceux que ça intéresse, ensuite j'ai quelques pochettes présentant notre fédération des races bretonnes avec l'ensemble des races bretonnes. Donc, nous avons 11 races bretonnes concernées. Ça va de l'abeille jusqu'au bovin. Voilà. Alors, je vais mettre que j'appuie sur ce bouton-là. Voilà, c'est ça. Une de mes particularités, c'est aussi faire la transformation des toisons des brebis. Comme dit ce matin, avec de la branchin, vous avez une laine à tricoter d'une qualité exceptionnelle. Et avec les langues de Bretagne, une qualité un peu moins bonne, on va dire, ça permet de faire de la laine nappée pour faire du molleton ou pour faire du feutre. Pour caractériser un petit peu mieux le bonhomme, je précise que je suis l'auréat du prix scientifique pour les jeunes en écologie. Et je ne sais pas si c'est un point récurrent de l'ensemble des gens qui sont élevés ou qui sont éleveurs aujourd'hui en mouton, mais c'était aussi en ornithologie, puisque je constate qu'on est nombreux à avoir fait l'ornithologie avant d'arriver au métier d'éleveur de brebis. J'ai mis sens en aménagement du territoire et j'ai fait l'école des bergers du Maire à la Salon-de-Provence, donc dans une logique de bergers transhumants en milieu pastoral de montagne. Donc c'est vrai que pour moi, en termes de compétences, de me retrouver sur ces espaces naturels, avec toutes les compétences que j'ai acquises dans le cadre de cette formation, me retrouver sur un espace naturel dans l'Ouest, ça m'a permis de mettre un certain nombre de compétences en activité, mais par contre j'ai été très démuni, notamment sur l'espace naturel breton de Landes, qui n'a strictement rien à voir avec les espaces de montagne, où vous avez des pelouses, des vraies pelouses pour le coup, avec de la vraie herbe, vraiment nourrissante. Vous pouvez amener aussi des agneaux en montagne, alors que si vous amenez des agneaux sur les Landes, c'est même pas la peine, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment une particularité à cet égard à souligner. Nous sommes sur des espaces naturels difficiles, comme je l'ai dit ce matin. C'est une particularité de l'Ouest. On en a déjà un petit peu parlé sur le pastoralisme des espaces naturels. Développer ces différents thèmes. On parlait tout à l'heure, tu parlais du cadre de l'intervention, je vais revenir là-dessus parce que ça me semble important. La caractérisation des espaces naturels, Autrement dit, lorsqu'on dit qu'on pâture les espaces naturels, c'est important de dire qu'est-ce qu'on pâture. Ah, décidément, il a sa vie que je ne maîtrise pas. Donc qu'est-ce qu'on pâture? Le choix des races et des productions, les observations que l'on peut faire, comme on citait tout à l'heure, et ensuite les besoins que nous pouvons avoir en termes de diagnostic pastoral. Donc, du pâturage à l'éco-pâturage, on en a parlé tout à l'heure. Ma propre définition, c'est que du pâturage à l'éco-pâturage, finalement, que ce soit un pré ou une pelouse d'un centre social, comme je le fais aujourd'hui, on est ni plus ni moins que sur un mélange de raies gras et trèfle. Donc, on fait du pâturage. La seule différence, c'est que quelque part, on fait de la tondeuse écologique, à condition de faire ça à côté de chez soi et pas à 100, 200, 300, 500 km comme certains peuvent être tentés de le faire. On a aussi une dimension de pâturage avec diagnostic écologique au préalable, mais aussi avec un suivi. Donc ça, c'est la dimension peut-être qu'on pourrait avoir une différence avec certains milieux en zone de montagne où il y a des travaux qui seront au fil du temps, où on dit effectivement au berger sur certains quartiers, là, vous mangez un peu trop, etc. Voilà, là, nous, c'est vrai que sur des zones où on a des mesures environnementales territoriales, on a des suivis, notamment en termes botaniques, que nous verrons un petit peu plus tard. Point important aussi qui peut être souligné, Alain Divot l'a un petit peu abordé, est-ce que c'est l'éleveur qui fait le diagnostic ou est-ce que c'est un tiers? Alors pour moi ça a une importance, si c'est le tiers, il peut être amené à répondre à la consigne du commanditaire qui est de faire uniquement un diagnostic écologique. L'éleveur, il est aussi intéressé par un diagnostic pastoral. Et c'est pas la même chose. Donc, souvent, ce qu'on constate, et je l'ai vécu, c'est qu'on nous dit, oh, on a fait un super diagnostic, il n'y a pas de problème, il y a de l'herbe, vas-y, amène tes bêtes. Enfin, résultat, quand même, amène tes bêtes, il y a de l'herbe, mais c'est pas vraiment de l'herbe qui est spécialement adaptée, au moins dans un premier temps, pour nos animaux. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, là où il y a des fonds publics qui sont mobilisés pour faire des diagnostics écologiques, pensez à garder quelques centaines d'euros pour faire un diagnostic pastoral. Ça a été évoqué tout à l'heure, donc le pâturage national des grands espaces naturels. Donc tout à l'heure je vous disais un espace naturel, qu'est-ce que c'est? Friche, lande, marais, est-ce que c'est en zone naturelle 2000 ou pas? Puisque quand on se fait en zone Natura 2000, on peut vous rétorquer qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire mi. Donc à un moment donné, il faut soit avoir un certain nombre d'éléments pour pouvoir, j'ose dire presque, se battre pied à pied avec les espaces naturels qui ont une vision presque quasiment naturaliste et qui oublient un petit peu la dimension de production. Donc on retombe dans la problématique posée précédemment sur troupeaux avec une gestion liée à la gestion d'un espace naturel ou troupeaux avec une vocation de production. Donc des fois, arriver à concilier les deux, on n'a pas la même représentation de l'animal entre le naturaliste qui voit une tondeuse à quatre pattes et l'éleveur qui lui voit un animal qui va générer pour lui du revenu. Donc, d'où le point sur l'éleveur affilié à la MSA dans une logique de production, et les prestataires d'espaces verts affiliés chambres de commerce, chambres de métier, où les animaux sont des outils de prestation, et parfois ce sont des animaux de réforme en fin de vie grâce productive pour adapter au plein air, comme le disait Madame Echon tout à l'heure. Et c'est vrai que là, parfois, ça peut poser question de se dire qu'on met sur des espaces naturels des animaux qui sont en réforme ont souvent une bonne raison, c'est qu'au moins une fois sur deux, voire deux fois sur trois, voire trois fois sur quatre, c'est qu'ils ont des problèmes de dentition. Voilà. Je ne vous fais pas de dessin, ça veut dire que si vous mettez des animaux qui ont une dentition sur des espaces naturels avec du ligneux, avec des herbes dures comme la bouline, etc., et ben vous avez comme on dit dans notre métier, de la casse, autrement dit de la mortalité. Donc Mme Echel disait qu'on arrivait à 20 ou 30% de mortalité. Moi, j'estime que c'est quand même beaucoup. Et donc ça veut dire que si chaque année, effectivement, on réintroduit des animaux de réforme pour faire ce genre de choses, et ben, on est dans une espèce de d'euthanasie collective, tranquillement mais sûrement, on vient pressurer les dernières heures, les derniers jours d'animaux qui ont déjà largement produit par ailleurs. Et donc moi je tiens à attirer l'attention sur les commanditaires sur cet aspect-là. Parce que moi ça me semble important d'avoir des animaux qui soient en état de vie correct. Et c'est vrai que quelque part la garantie en travaillant avec les éleveurs, c'est qu'eux ont une logique de production, donc ils ont intérêt à faire attention à leurs animaux. Après, je ne veux pas dire que tous ceux qui font des prestations de service travaillent uniquement avec des réformes et qu'ils ont 100% de mortalité sur leur prestation, mais bon voilà, ça permet de donner, ce sont des indicateurs. La question que je posais tout à l'heure avec les environnementalistes, est-ce qu'on est dans une dynamique, enfin dans une réflexion par rapport à l'environnement, de protection, de conservation de l'environnement ? Vous me direz, mais c'est pareil, mon capitaine. Ben, moi, je suis pas sûr. Parce que j'estime que parfois, on peut protéger l'environnement, avec, je vais employer un gros mot, en détruisant une partie de cet environnement. Je prends un exemple de bande par feu. Bon, moi, je viens du Midi, je suis un peu plus concerné par ça, de par mon expérience. Mais ces problématiques-là, on l'a par ailleurs. On se retrouve sur certains secteurs. On nous demande de faire la prévention contre les incendies, mais surtout, il ne faut pas trop surpâturer. À mon avis, il y a un problème de cohérence entre l'objectif et le résultat. Donc, protection de l'environnement, conservation de l'environnement, on tombe sur la problématique des dynamiques des milieux, donc sur le concept de zone dégradée. Qu'est-ce que ça veut dire une zone dégradée ? Est-ce qu'une zone dégradée, c'est nécessairement une zone qui va devenir un désert ? Ou est-ce que c'est la zone dégradée, est-ce que c'est l'état de la zone à point A qui, au fil du temps, va reprendre une dynamique pour arriver à une zone optimum, idéalisée, que la zone climax. Voilà. Donc je pense qu'entre la zone dégradée et le climax, il y a quand même un gradient qui est suffisamment large pour, à un moment donné, ne pas tomber sur la tête d'un éleveur en disant « Ah, t'as fait du surpâturage, c'est pas bien, t'as mis un garçon. »
Il nous reste quelques minutes, Patrick.
Ouais. Donc, finalité d'action, biodiversité, protection des sites contre l'incendie. Donc là, par exemple, il peut y avoir des points qui sont contradictoires entre la biodiversité et la protection des sites contre l'incendie. En même temps, c'est peut-être complémentaire. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une bande par feu, pour le coup, on participe à la biodiversité en créant de l'espace ouvert. Tout à l'heure, Mme Echem disait comment notre intervention s'adapte en dispositif global. Ça me semble très important à notifier, parce que parfois, vous avez un souhait des collectivités locales, que sont les mairies, qui est de dire « on a eu un incendie, on veut qu'il y ait une action qui soit mise en place ». Et puis après, vous avez le conseil général, le syndicat mixte, etc., qui commence à monter une usine à gaz et vous retrouvez sur autre chose. Alors tout le monde est content, il y a des brebis, il y a des chevaux, il y a des ânes, il y a des vaches sur un espace, mais finalement, entre le fait que la commune veut qu'il y ait moins de problèmes sur les incendies et où après on met en place un dispositif où on est uniquement sur la gestion de la langue pour pas qu'elle se ferme trop, on est sur des finalités qui sont différentes. Vous avez aussi la vente de rêves. Futur éco-pâtureur ou éco-pastoraleur ou pastureur, ne vous laissez pas mener par le bout du nez en vous disant ça va assurer votre promotion, vous allez travailler gratuitement, patati patata. Voilà, ça il ne faut pas vous laisser avoir là-dedans. Soit vous faites rémunérer directement dans le cadre d'une prestation, soit veiller à ce qu'il y ait bien une mesure à l'agrément environnemental territorial, parce que c'est du travail et le métier d'éleveur, c'est pas uniquement d'être avec son pipeau et son chapeau en train de faire la sieste à un même moment. Donc identifier tous les partenaires pour optimiser l'action. Donc les partenaires, c'est aussi les mairies, c'est le conseil général, c'est la région, c'est l'ONF, c'est le conservatoire du littoral, les parcs naturels régionaux, parce que donc, parfois il peut y avoir des regards qui sont différents, et donc parfois il peut être bien d'œuvrer avec ces différents regards pour savoir exactement ce que veulent les gens et pour aller dans le bon sens. Voyez les moyens mis en œuvre pour pouvoir mettre en place votre projet. Donc c'est ce dont je vous ai parlé. Les moyens, c'est aussi les parcs, les accès, les débroussaillages préalables, parce que des fois on peut vous demander d'aller dans une lande ou dans un espace naturel, ben, allez-y, mais bon, vous avez tellement de végétation que vos animaux ne vont pas rentrer dedans. Hein. Enfin bon, sauf si vous voulez récupérer des cadavres, on peut toujours y aller. Mais... les points d'eau, éventuellement des possibilités d'avoir de la surveillance. Alors ça peut être par le parc naturel du coin ou par des agents communaux, des choses comme ça. Ensuite, il y a les clôtures. Alors là, il faut que vous soyez assez vigilant aussi au niveau des clôtures, aussi bien pour vous-même que pour la structure qui peut vous installer des clôtures. Soyez bien au fait de tout ce qui existe, aussi bien en mobile qu'en fixe. Hein. Pensez bien qu'une clôture, c'est aussi bien pour que vos bêtes ne sortent pas que pour des choses extérieures ne rentrent pas. Les choses extérieures, c'est les chiens, surtout pour les brebis. Hein. Les brebis adorent les chiens, et réciproquement, surtout réciproquement. Et puis, il peut y avoir des incendies aussi. Donc, pensez que si vous avez tout strictement grillagé, si le jour où il y a un incendie, vos bêtes auront du mal à sauter. Donc, de temps en temps, si vous avez plutôt des clôtures extensiles, comme vous en avez là en bas, ça vous permet effectivement d'avoir des animaux qui peuvent sortir en cas d'incendie. Bon, pour l'abreuvement, on a haut à revoir. Caractérisation d'espace naturel, enjeu écologique, j'en ai parlé tout à l'heure. Diagnostic pastoral, enjeu de production, on l'a déjà abordé. Décidément. Voilà, donc l'inventaire botanique et faunistique, j'en ai parlé tout à l'heure, donc réalisé par les éleveurs ou par nos spécialistes. Le diagnostic pastoral, c'est aussi important pour répondre aux besoins physiologiques des animaux. Donc là, c'est là que lorsqu'on s'installe, ça c'est vraiment important de demander, parce qu'on sait mieux où on met les pieds. Surtout, parce qu'en fait, moi ce que je constate, on a pas les différents témoignages, c'est que tous ceux qui s'installent dans ce cadre-là, c'est dans le cadre d'une installation. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je suis en train de dire sans vouloir le dire. Donc ça veut dire qu'on est dans un moment où on est en train de tout mettre en place. Donc on est rarement sur une situation où on est déjà en activité. On est dans une situation où on met les choses en place et où on a à gérer à la fois à peine la montagne, si je puis dire. Et là, c'est pas évident parce qu'on a un nouveau troupeau qui va sur un nouvel environnement et c'est pas facile. Donc choix des espèces. Donc là c'est pareil, hein, on parlait des alpagas tout à l'heure, j'ai été aux alpagas, il y a des ânes, donc il y a le parasitisme à prendre en considération, notamment avec le problème de l'ivermectine. Hein, pour ceux qui ne savent pas, l'ivermectine donc, c'est un traitement antiparasitaire qui est rémanent, qui a une durée de rémanence de 3 mois. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une logique écologique sur un espace naturel avec un vermicide, on peut aller les choses telles qu'elles sont, hein, ce sont des vermicides, pas des vermifuges. Donc autrement dit, pendant 3 mois, ça va vous flinguer tous les coprophages donc, qui se nourrissent des crottes de vos animaux. Donc ayez-en bien conscience si vous voulez faire quelque chose d'écologique. Donc avec toutes les conséquences sur la perte de l'État. Donc la perte de l'État, c'est sensibilité aux parasites, c'est perte de lait, mauvaise adoption des petits, l'aimelage, manque de lait. Et malgré tout, rien n'est impossible, donc il y a une adaptation progressive au milieu, au fur et à mesure du temps, mais aussi avec une sélection des sujets. Donc c'est-à-dire que quand vous avez des sujets qui vous rendent compte que par exemple, une perte de l'État régulièrement, que l'aménage ça se passe mal, bah, il vaut mieux s'en séparer d'une manière ou d'une autre, et de récupérer des sujets qui sont nés sur votre ferme. Voilà, ça c'est important. On va arriver au bout du bout. Donc, on va faire plaisir à Madame Echel, on va encore faire de la pub pour nos animaux. Alors, c'est pas non plus un hasard, en quelque sorte. C'est vrai que c'est aussi une façon de solliciter les collectivités publiques à dire, vous voulez faire du bio et du local, bah, allez jusqu'au bout de la démarche. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces races-là sont mises à côté de la production classique. On a même du mal à avoir des articles sur les journaux professionnels agricoles parce qu'on est des pimpins avec nos races locales. C'est une façon aussi de trouver une sorte de légitimité par une autre partie de la puissance publique qui est de soutenir ce genre de projet permettant de valoriser nos races locales qui sont adaptées à la situation. Au niveau de l'entretien, il ne faut pas oublier, il y a les broussaillages le long des clôtures, et c'est pas mal du boulot, les postes électriques, l'abreuvement. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est ponctuel, donc des sorties de brebis, ça peut arriver. Donc pour ça, il faut être équipé, il faut avoir des parts de contention, des filets, des chiens, voilà, je vais le marquer. Du chirobroyage forestier, pourquoi pas même du broyage de fougères. Alors ça peut se faire avec des chevaux, mais ça peut se faire aussi avec des moyens mécaniques. Alors ça c'est important, broyage des fougères, on peut dire comme ça une manipulation sur les fougères, mais il faut savoir qu'au niveau des MAE, vous avez un cahier des charges à respecter, et s'il y a trop de fougères, vous avez des pénalités sur votre MAE. Alors que naturellement, il peut y avoir des zones, par exemple, de lande à fougères, mais ça, les contrôleurs de la PAC, lui, il a une grille, il a des fougères, il y a des fougères, bon, pénalité. Voilà. Donc sur les besoins pour demain, moi je trouve ce qui serait intéressant, ça serait que les organismes de recherche publique posent un regard un petit peu plus attentif à nos pratiques. C'est vrai qu'il s'est fait pas mal de choses dans le sud de la France avec les éleveurs pastoraux, notamment avec le CERPAM. Si on pouvait nous avoir un CERPAM du Grand Ouest, ça serait pas mal, notamment pour tout le pâturage des Landes. Donc avec des études sur l'éthologie des espèces et des races, des réalisations de sites pastoraux, des animations locales de groupes d'éleveurs. On est en cours de réflexion, là, une promotion régionale avec la Fédération des races bretonnes et de Parc d'Armorique. Éventuellement, pourquoi pas mettre en place une charte des éco-pastoralistes. Et puis, j'informe pour ceux qui ne le savent pas qu'il y a le réseau national Pâturage Juste qui organise ses rencontres le 21 et 22 octobre, autrement dit la semaine prochaine, près de Saumur. Donc, où il y a toute une bande du Luberville qui font du pâturage non conventionnel et qui sont une démarche intéressante pour nous. Donc, font partie entre autres de CEDAPA, qui aujourd'hui, dans notre secteur, est à peu près le seul organisme qui s'intéresse à ce que l'on fait. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait rapidement le tour de mon propos. Voilà. Je vous remercie de votre attention.